Bonjour, ici Marc, bienvenue au 58e épisode du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures idées que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la deuxième partie du livre de Larkin Rose, La superstition la plus dangereuse. Je pense que si on veut enfin arriver à la fin des guerres, de l'esclavage, qui, comme le montre ce livre, est plus étendu que jamais, la fin de la pauvreté, de la pollution, et, enfin, arriver à la paix dans le monde, et la prospérité et le bonheur pour tous, il est absolument nécessaire de se libérer de cette terrible superstition. Oui, la plupart d'entre nous sommes esclaves, et on ne s'en aperçoit même pas. C'est pour ça qu'on gagne à peine de quoi vivre, qu'on a si peu de temps libre, que les prix augmentent autant, etc. Et ceux qui prétendent diriger me semblent tout autant bourrés de traumatismes émotionnels et ne sont pas heureux non plus, donc le status quo ne profite à personne. Alors pour nous et pour les générations à venir, réveillons-nous et comprenons comment faire pour vivre une vie tellement plus belle. Voici donc la suite du livre. La religion du gouvernement. Le gouvernement n'est ni un concept scientifique, ni une construction sociologique rationnelle, ni une méthode logique et pratique d'organisation et de coopération humaine. En vérité, la croyance en un gouvernement est une religion composée d'un ensemble d'enseignements dogmatiques, de doctrines irrationnelles qui vont à l'encontre des preuves et de la logique et qui sont méthodiquement mémorisées et répétées par les fidèles. Comme d'autres religions, l'évangile du gouvernement décrit une entité surhumaine, surnaturelle, au-dessus des simples mortels, qui émet des commandements à l'intention des gueux ou des cerfs, pour lesquels l'obéissance inconditionnelle est un impératif moral. La désobéissance au commandement, qu'on appelle enfreindre la loi, est considérée comme un péché, et les fidèles se réjouissent du châtiment des infidèles et des pécheurs, qu'on appelle criminels, tout en étant fiers de leur propre loyauté et de leur humble soumission à leur Dieu, en tant que contribuables respectueux de la loi. Et si les mortels peuvent humblement supplier leur Seigneur de leur accorder des faveurs et de leur permettre de faire certaines choses, il est considéré comme blasphématoire et scandaleux que l'un des simples paysans s'imagine pouvoir décider des lois du Dieu gouvernement qu'il doit suivre et de celles qu'il est acceptable d'ignorer. Leur mantra est le suivant. Vous pouvez essayer de changer la loi, mais, tant que c'est la loi, nous devons tous la suivre. La nature religieuse de la croyance en l'autorité est exposée à la vue de tous lorsque les gens se lèvent solennellement, la main sur le cœur, et proclament religieusement leur foi éternelle et leur loyauté envers un drapeau et un gouvernement, qu'on appelle la République. Il vient rarement à l'esprit de ceux qui récitent le serment d'allégeance, note du traducteur en Amérique du Nord, un peu comme chanter la Marseillaise en France, tout en ressentant une profonde fierté, que ce qu'ils font en réalité, c'est prêter serment d'allégeance à un système d'assujettissement et de contrôle autoritaire. En bref, ils promettent de faire ce qu'on leur dit et de se comporter comme des sujets loyaux envers leur maître. Hormis la phrase manifestement inexacte de la fin sur « la liberté et la justice pour tous », l'ensemble du serment porte sur la soumission au gouvernement qui prétend représenter la collectivité, comme s'il s'agissait là d'un objectif grand et noble. Le serment, ainsi que la mentalité et les émotions qu'il est censé susciter, s'appliquerait tout aussi bien à n'importe quel régime tyrannique de l'histoire. Il s'agit de promettre qu'on va obéir et être facile à contrôler et se soumettre à la République. Ce n'est pas la promesse de faire ce qui est juste. De nombreux autres rituels et chants patriotiques, ainsi que la vénération ouvertement religieuse accordée à deux parchemins, la Déclaration d'indépendance et la Constitution américaine, démontrent également que les gens ne considèrent pas simplement le gouvernement comme une nécessité pratique. Ils le considèrent comme un dieu qui doit être loué et adoré, honoré et obéi. Le principal facteur qui distingue la croyance dans le gouvernement des autres religions aujourd'hui est que les gens croient réellement au dieu appelé gouvernement. Les autres dieux auxquels les gens prétendent croire et les églises qu'ils fréquentent ne sont plus, en comparaison, que des rituels vides de sens et des superstitions répétées à demi-mot. Lorsqu'il s'agit de leur vie quotidienne, le Dieu auquel les gens adressent réellement leurs prières pour qu'il les sauve du malheur, qu'il frappe leurs ennemis et qu'il les couvre de bénédictions, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement dont les commandements sont le plus souvent respectés et obéis par les gens. Lorsqu'un conflit survient entre le gouvernement et les enseignements des dieux inférieurs, tels que « payer sa juste part, les impôts, contre « tu ne voleras point » ou « devoir envers son pays, service militaire, contre « tu ne tueras point », les commandements du gouvernement supplantent tous les enseignements des autres religions. Les politiciens, les grands prêtres de l'église du gouvernement, les porte-parole et les représentants du gouvernement qui délivrent la loi sacrée déclarent même ouvertement qu'il est permis au peuple de pratiquer la religion qu'il souhaite tant qu'il n'enfreint pas la religion suprême en désobéissant à la loi, c'est-à-dire au diktat du Dieu appelé gouvernement. Ce qui est peut-être le plus révélateur, c'est que si vous suggérez à l'individu moyen que Dieu n'existe peut-être pas, il réagira probablement avec moins d'émotion et d'hostilité que si vous évoquez l'idée d'une vie sans gouvernement. Cela indique à quelle religion les gens sont plus profondément attachés sur le plan émotionnel et en quelle religion ils croient plus fermement. En fait, ils croient si profondément au gouvernement qu'ils ne reconnaissent même pas qu'il s'agit d'une croyance. La raison pour laquelle tant de personnes réagissent à l'idée d'une société sans État, anarchie, par des insultes, des prédictions apocalyptiques et des crises émotionnelles, plutôt que par un raisonnement calme, est que leur croyance en un gouvernement n'est pas le résultat d'un examen attentif et rationnel des preuves et de la logique. Il s'agit, à tous égards, d'une foi religieuse à laquelle on ne croit qu'en raison d'un endoctrinement prolongé. Et il n'y a presque rien que les adorateurs de l'État trouvent plus terrifiant sur le plan existentiel que d'envisager la possibilité que le gouvernement, leur sauveur et protecteur, leur professeur et maître, n'existe en réalité pas et n'a jamais existé. De nombreux rituels politiques ont des connotations ouvertement religieuses. Les bâtiments grandioses, semblables à des cathédrales, le faste des inaugurations et autres cérémonies gouvernementales, les costumes traditionnels et les rituels séculaires, la façon dont les membres de la classe dirigeante sont traités et décrits, par exemple « votre honneur », tout cela donne à ces procédures un air de sainteté et de révérence, bien plus révélateur de rites religieux que d'un moyen pratique d'organisation collective. Il pourrait être agréable d'avoir une divinité moralement supérieure et toute-puissante pour protéger les innocents et prévenir l'injustice. Et c'est ce que les étatistes espèrent que le gouvernement sera, un décideur final, sage, impartial, omniscient et tout-puissant, qui annulera et remplacera les caprices imparfaits, myopes et égoïstes des humains, en dispensant infailliblement la justice et l'équité. Cependant, une telle chose n'existe pas et ne peut pas exister, et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il est tout à fait insensé de considérer le gouvernement comme la solution à l'imperfection humaine. Par exemple, ce que presque tous les étatistes veulent, c'est que le gouvernement applique des règles objectives de comportement civilisé. Plus précisément, chaque individu veut que sa propre perception de la justice et de la moralité soit appliquée par l'autorité, tout en ne réalisant pas qu'à partir du moment où il y a une autorité, ce n'est plus à cet individu de décider de ce qui est moral ou juste. L'autorité s'arrogera le droit de le faire à sa place. Ainsi, à maintes reprises, les adeptes de l'autorité ont essayé de créer une force toute-puissante pour le bien, en nommant certaines personnes à la tête de l'État, pour apprendre rapidement qu'une fois que le maître est sur le trône, il ne se soucie pas de ce que ses esclaves espéraient qu'il ferait avec le pouvoir qu'il lui avait donné. Et cela est arrivé à toutes sortes d'étatistes avec des croyances et des agendas très différents. Les socialistes affirment que le gouvernement est nécessaire pour redistribuer équitablement les richesses. Les objectivistes affirment que le gouvernement est nécessaire pour protéger les droits individuels. Les constitutionnalistes affirment qu'un gouvernement est nécessaire pour accomplir uniquement les tâches énumérées dans la Constitution. Les adeptes de la démocratie affirment que le gouvernement est nécessaire pour accomplir la volonté de la majorité. De nombreux chrétiens affirment que le gouvernement est nécessaire pour faire respecter les lois de Dieu, et ainsi de suite. Et dans tous les cas, le peuple finit par être déçu parce que l'autorité change toujours les plans afin de servir les intérêts des personnes au pouvoir. Une fois qu'un groupe de dirigeants est aux commandes, ce que les masses voulaient qu'ils fassent de leur pouvoir n'a plus d'importance. Ce fait a été démontré par tous les gouvernements de l'histoire. Une fois que le peuple a créé un maître, le peuple, par définition, n'est plus aux commandes. Il est absurde de s'attendre à ce qu'il en soit autrement, même en l'absence de tous les exemples historiques. Il est ridicule d'espérer que le maître soit au service de l'esclave, que le pouvoir soit utilisé uniquement au profit de celui qui est contrôlé et non de celui qui le contrôle. Ce qui rend la chose encore plus insensée, c'est que les étatistes prétendent que la nomination de dirigeants est le seul moyen de surmonter les imperfections et l'indignité des humains. Les étatistes observent un monde rempli de gens aux motivations et à la moralité douteuse, et ils ont peur de ce que certains de ces gens pourraient faire. En soi, il s'agit d'une préoccupation tout à fait raisonnable. Mais alors, pour se protéger contre ce que certaines personnes pourraient faire, les étatistes préconisent de donner à certaines de ces mêmes personnes, à la vertu douteuse, un énorme pouvoir et la permission spéciale de régner sur tous les autres, dans le vain espoir que, par miracle, ces personnes décideront d'utiliser leur nouveau pouvoir uniquement pour le bien. En d'autres termes, l'étatiste regarde son prochain et pense « Je ne te fais pas confiance pour être mon voisin, mais je te fais confiance pour être mon maître. » Bizarrement, presque tous les étatistes admettent que les hommes et les femmes politiques sont plus malhonnêtes, corrompus, fourbes et égoïstes que la plupart des gens, mais ils insistent toujours sur le fait que la civilisation ne peut exister que si ces personnes particulièrement indignes de confiance reçoivent à la fois le pouvoir et le droit de contrôler de force tous les autres. Les partisans du gouvernement croient vraiment que la seule chose qui puisse les protéger des défauts de la nature humaine est de prendre certains de ces humains imparfaits, certains des plus imparfaits en fait, et de les nommer dieux, avec le droit de dominer toute l'humanité, dans l'espoir absurde que, si on leur donne un pouvoir aussi énorme, ces personnes ne l'utiliseront que pour le bien. Et le fait que cela ne s'est jamais produit dans l'histoire du monde n'empêche pas les étatistes d'insister sur le fait que cela doit se produire pour garantir une civilisation pacifique. Note personnelle de l'auteur Larkin Rose. Je dis tout cela en tant qu'ancien étatiste fervent, qui, pendant la majeure partie de ma vie, a non seulement accepté les autocontradictions et les rationalisations délirantes qui sous-tendent le mythe du gouvernement, mais a lui-même répandu cette mythologie avec véhémence. Je n'ai échappé à mon propre endoctrinement autoritaire, ni rapidement, ni confortablement, mais j'ai abandonné la superstition lentement et à contre-cœur, avec beaucoup de coups de pieds et de cris intellectuels en cours de route. Je ne mentionne cela que pour qu'il soit bien entendu que lorsque je qualifie la croyance en l'autorité de tout à fait irrationnelle et folle, je m'attaque à mes propres croyances antérieures autant qu'à celles de n'importe qui d'autre. Une autre façon de voir les choses est que les étatistes s'inquiètent du fait que des personnes différentes ont des croyances différentes, des points de vue différents, des normes morales différentes. Ils expriment des préoccupations telles que « Et qu'est-ce que je fais, moi, s'il n'y a pas de gouvernement et que quelqu'un pense qu'il est normal de me tuer et de voler mes affaires ?» La solution autoritaire consiste à ce que, au lieu que chacun décide pour lui-même de ce qui est bien et de ce qu'il doit faire, il y ait une autorité centrale qui établisse un ensemble de règles qui seront appliquées à tous. Les étatistes espèrent évidemment que cette autorité édictera et appliquera les bonnes règles, mais ils n'expliquent jamais comment ni pourquoi cela se produirait. Puisque les édits du gouvernement sont rédigés par de simples êtres humains, généralement des êtres humains exceptionnellement assoiffés de pouvoir et corrompus, pourquoi devrait-on s'attendre à ce que leurs règles soient meilleures que les règles que chaque individu choisirait pour lui-même? La croyance en un gouvernement ne met pas tout le monde d'accord. Elle ne fait que créer une occasion de transformer les désaccords personnels en guerres à grande échelle et en oppression de masse. Le fait qu'une autorité règle un différend ne garantit pas non plus que le bon côté l'emporte. Pourtant, les étatistes parlent comme si le gouvernement était juste, raisonnable et rationnel dans des situations où les individus ne le seraient pas. Une fois de plus, cela démontre que les partisans du gouvernement imaginent que l'autorité possède des vertus surhumaines auxquelles il faut accorder plus de confiance qu'aux simples mortels. L'histoire montre le contraire. Un sens moral tordu chez une personne ou quelques personnes peut entraîner le meurtre d'une personne, voire de dizaines de personnes, mais ce même sens moral tordu chez quelques personnes seulement, lorsqu'elle s'empare de la machine appelée gouvernement, peut entraîner le meurtre de millions de personnes. L'étatiste veut que son idée des bonnes règles soit imposée à tous par une autorité centrale, mais il n'a aucun moyen d'y parvenir et aucune raison de s'attendre à ce que cela se produise. Dans leur quête d'un gentil tout-puissant pour sauver la situation, les étatistes finissent toujours par créer des méchants tout-puissants. Encore et encore, ils construisent des monstres gouvernementaux dans l'espoir qu'ils défendront les innocents pour finalement découvrir que les monstres deviennent une menace bien plus grande pour les innocents que les menaces contre lesquelles ils ont été créés. Ironiquement, ce que les étatistes préconisent en réalité dans leur tentative de garantir la justice pour tous, c'est la légitimation du mal. En vérité, tout ce que la croyance en l'autorité fait et tout ce qu'elle peut faire, c'est d'introduire plus de violence immorale dans la société. Il ne s'agit pas d'une coïncidence malheureuse, ni de l'effet secondaire d'une idée fondamentalement bonne. C'est un truisme basé sur la nature de la croyance en l'autorité, et c'est facile à prouver logiquement. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ceux dont on parle ici arrivent aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux. Les médias sont de plus en plus censurés, mais laisser un commentaire sur iTunes, par exemple, peut aider les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la deuxième partie de La superstition la plus dangereuse, autorité égale violence immorale.